contraste avec la situation française, puisque en Europe, c'est la stabilité, globalement, qui a prévalu. Certes, les droites radicales progressent, mais elles sont loin de pouvoir bloquer le Parlement européen, comme le risque en avait été soulevé. Finalement, en Europe, c'est la droite classique, Bontin, qui consolide sa première place devant les sociaux-démocrates. Voilà qui ne devrait pas chambouler les équilibres politiques aux abords du mercato européen, c'est-à-dire au moment où commencent les négociations pour les postes clés, par exemple la présidence de la Commission ou du Conseil. Jean Quatremer, pendant que la France se déchire, ça veut dire que les institutions européennes vont fonctionner comme avant?
Mais il faut bien voir que les élections européennes, elles n'ont d'européennes que le nom. C'est en fait 27 petites élections nationales et c'est tamisé donc par ce fait-là, puisque chaque pays a un nombre de députés européens qui dépendent de sa population. Donc la France est 81 eurodéputés, le Luxembourg c'est 6. Et ce sont des scrutins proportionnels, ce qui tamise encore plus. Il n'y a pas de scrutin majoritaire, si vous voulez. Donc ça tamise encore plus les effets les basculements. Donc le résultat, effectivement, il y a une petite poussée des droites radicales et de l'extrême droite, hein, parce que je distingue bien droite radicale de l'extrême droite. Il y a deux groupes qui sont divisés. Il y a le CR, donc il y a le groupe des conservateurs, où siège notamment le PiS polonais, Fratelli d'Italia, etc.
Les amis de Giorgia Meloni, la première ministre.
Exactement. Et ce sont donc, en fait, c'est un groupe qui est pro-ukrainien, atlantiste, et plutôt, je dirais, eurosceptique. Et vous avez le groupe d'identité-démocratie, où siège le Rassemblement national, mais aussi le parti de Geert Wilders au Pays-Bas, jusque-là, l'alternative sur Deutschland allemande, mais qui a été exclue, mais qui va revenir, etc. Donc c'est beaucoup une droite dure, une droite pro-russe, une droite anti-atlantiste, une droite europhobe, et surtout une droite beaucoup plus libérale sur le plan sociétal que la droite dont je parlais précédemment. Et ils font en tout 200 à 220 sièges, soit 18% de l'hémicycle, ce qui est à peu près, grosso modo, ce qu'ils avaient dans l'ancien hémicycle. Et la majorité sortante, donc c'est-à-dire les conservateurs, les socialistes et les centristes gardent la majorité, avec une majorité légèrement réduite, mais ça reste majoritaire.
C'est tout.
Des années qu'ils tentent de le faire.
Pour quelle raison? Déjà, à cause de l'Ukraine en particulier, à cause de la Russie, par rapport à la Russie?
Parce qu'en fait, d'abord, ce sont des groupes nationalistes. Donc, ce sont des groupes qui n'arrivent pas à faire des compromis entre étrangers. Parce que l'Europe, c'est composé de plein d'étrangers. Voilà, quand on est français, on voit un Allemand est un étranger, un Italien est un étranger, etc. Donc, ils n'arrivent pas à faire alliance. Et ils ne sont pas d'accord idéologiquement. Je veux dire, sur l'Ukraine, vous avez mille fois raison, c'est une ligne de fracture. Vous imaginez que les Polonais vont accepter de travailler avec le Rassemblement national qui est couché devant Vladimir Poutine.
Est-ce que le PPE arrivera?
Il n'y a pas de majorité entre le PPE et ECR, le groupe en question. On pense plutôt que Mélanie pourrait rejoindre dans une alliance technique le PPE comme les conservateurs britanniques en leur temps. C'est plutôt ça qu'on pense. Donc ça renforcerait encore le poids du PPE. Effectivement, ça le tirerait un peu plus vers la droite.
Voilà. Pas toujours facile.
La logique qu'évoquait Aziz Lecor, on a effectivement le sentiment que si vous ne faites pas partie de ces trois blocs, Raphaël Glucksmann qui a eu des difficultés à se positionner, ou bien à droite, effectivement, François-Xavier Merlamy, on parlera tout à l'heure de LR qui est complètement en train d'imploser, eh bien vous risquez de ne plus exister. C'est ça la vie politique française de demain?
Écoutez, d'abord, ce qu'on est en train de payer, c'est 10 ans de macronisme qui a tenté de détruire le centre-gauche et le centre-droite, qui n'a pas tenté, qui les a détruits. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et il se retrouve donc, effectivement, avec une extrême-droite extrêmement puissante, surpuissante. C'est quand même sans précédent depuis les années 40. Il faut quand même se rappeler, la dernière fois que... D'ailleurs, ça me fait penser que le Front populaire, c'est quand même la chambre qui a voté les pleins pouvoirs au maréchal Pétain, mais ça, c'est un détail.
1940.
Mais donc, aujourd'hui, on se retrouve face, effectivement, à une extrême-droite. Une gauche qui pourrait renaître, incarnée par Glucksmann, mais avec le vrai risque et les filles. Mais le centre dont vous parlez, je ne le vois plus. Il est en train de disparaître. C'est-à-dire que ce qu'a fait Emmanuel Macron, c'est quelque chose d'absolument hallucinant, parce qu'il a tué sa propre famille politique, c'est qu'il a voulu créer. Et une dernière notation, si vous me permettez, parce que c'est vu de l'étranger, c'est que à Bruxelles, personne ne comprend, je dis bien personne, ce qu'a fait Macron. Donc dès qu'il voit un Français...
Vous.
Non, il me dit, vous êtes Français, vous avez compris. Et donc je dis, non, c'est parce que je suis Français que je comprends, donc pas Français,
c'est clair.
Il me désagréable.
Allez-y, finissez.
Et surtout, ce qu'on ne comprend pas, c'est comment Emmanuel Macron, seul, entouré de 4 conseillers totalement obscurs que personne ne connaît, peut décider de son sort, bon ça, à la limite, il a le droit de se faire harakiri, du sort de la France, mais du sort de l'Union européenne.
Ça.
Personne n'était au courant.
Ça, ça soulève peut-être un autre, une autre question.
7000 personnes interrogées par Ipsos, il s'avère que le parti de Marine Le Pen arrive en tête chez les cadres, chez les diplômés jusqu'à Bac plus 2 et chez ceux qui disent être satisfaits globalement de leur propre vie, bien loin du clivage observé à la présidentielle. Vous vous souvenez, Macron-Le Pen, la France qui va bien contre la France qui va mal. Jean Quatremer, le RN arrive d'ailleurs en tête à Saint-Jean-de-Luz ou à Paimpol, qui sont quand même des villes plutôt réputées pour leur douceur de vivre. L'explication sociale, économique du vote RN, elle ne suffit pas, elle ne suffit plus, elle n'est plus pertinente.
C'est intéressant dans le sondage Ipsos que vous citez, c'est que c'était les préoccupations des Français. Pourquoi, sur quoi ils se sont déterminés? Alors en moyenne, les Français à 45% se sont déterminés sur la question du pouvoir d'achat, qui est une question très importante évidemment, puisque ça concerne aussi l'appauvrissement des classes moyennes. Et 43% l'immigration. Ceux qui ont voté pour le Rassemblement national, c'est 75% en 1 l'immigration. Ceux qui ont voté pour LR, c'est 57% en première position. C'est, l'immigration, ça ne veut rien dire en soi. Ce n'est pas les gens qui arrivent, on n'est pas envahis, etc. C'est en fait toute la question des valeurs, la question de la place de l'islam, l'islam politique, et donc la campagne, en fait.
Les questions identitaires, vous voulez dire, c'est ça ?
Identitaire, j'aime pas le mot identité, parce que il ne s'agit pas d'identité, parce que ça veut dire que les Français seraient racistes. Or, ce que montre aussi cette enquête Ipsos, c'est très intéressant, c'est que les gens ne sont pas racistes. C'est pas la question. C'est vraiment, encore une nouvelle fois, la question des valeurs. C'est-à-dire quelle place on peut faire dans un espace, dans notre République, pour des gens qui ne croient pas, qui ne partagent pas nos croyances, qui ne partagent pas nos valeurs, qui considèrent que l'égalité homme-femme ne va pas de soi, etc., etc. Et c'est un sujet majeur. Et ce qui ont fait la campagne du Rassemblement national, et c'est pour ça que je leur en voudrais pour toujours, c'est la France insoumise. Parce que en faisant comme unique but, enfin comme unique thème de campagne, la guerre entre Israël et Gaza, la question effectivement, le soutien au Hamas, des déclarations antisémites, je veux dire antisémites dignes de la droite, de l'extrême droite d'avant-guerre, je veux dire qu'ils ont donné corps à ces craintes identitaires, alors là je reprends le mot, ces craintes identitaires. Donc à un moment il va falloir peut-être se poser des vraies questions et répondre à ces angoisses des Français, et elles existent.
Parmi les thèmes aussi, peut-être vu cette tribune très intéressante de la grande metteuse en scène Ariane Mnouchkine dans Libération, engagée à gauche depuis des années. Et elle fait une forme de mea culpa sur les personnalités de gauche engagées. Elle dit « Macron est bien trop petit pour porter à lui seul la totalité de ce désastre électoral. Je nous pense, nous, en partie responsables, nous gens de gauche, nous gens de culture. On a lâché le peuple, on n'a pas voulu écouter les peurs, les angoisses. Quand les gens disaient ce qu'ils voyaient, on leur disait qu'ils se trompaient, qu'ils ne voyaient pas ce qu'ils voyaient. Ce n'était qu'un sentiment trompeur. Puis comme ils insistaient, dit Ariane Mnouchkine, on leur a dit qu'ils étaient des imbéciles. Puis comme ils insistaient de plus belle, on les a traités de salauds. Est-ce que c'était un mea culpa bienvenu, Jean Quatremer ?
Mais c'est nécessaire. Et ce mea culpa devrait être partagé par Emmanuel Macron et par Renaissance. Je veux dire, c'est ce qui s'est passé est dramatique. Et pourtant, on avait un précédent. Rappelez-vous 2002, le fameux moment où Lionel Jospin se fait éliminer dès le premier tour de la présidentielle. Moi, j'étais à peine né, mais Renaud-Élise pourra un jour vous l'expliquer. On parlait du sentiment d'insécurité. C'est-à-dire, en clair, vous avez un sentiment d'insécurité, donc lâchez-nous avec ça, allez vivre, vous vivez dans une banlieue, etc. Mais c'est un sentiment, en réalité, tout va bien. Et généralement, qui disait ça ? Les bobos des centres-villes.
Lionel Jospin avait avoué ce qu'il avait appelé sa naïveté, pensant que simplement le recul du chômage, disait-il, permettrait de faire reculer le Front National.
Et on voit bien qu'il n'y a pas de lien entre la bonne santé économique d'un pays, parce que la France, pour l'instant, économiquement, va bien. Les États-Unis, c'est un pays qui va très bien aussi, mais qui se prépare à élire Trump. Les questions qui se posent sont autres aujourd'hui. Ouais. C'est des questions que la gauche et que le centre doivent aborder, mais de plein fouet.
C'est-à-dire, il faut y aller. Vous
vous en rire. En voilà un autre récit, mais un peu plus drôle cette fois-ci. L'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale dimanche n'était qu'un premier tremblement de terre suivi de répliques sismiques toute la semaine, en particulier ce mardi chez les Républicains, quand Éric Ciotti a proposé une alliance avec le Rassemblement national. Certains internautes donc ont choisi d'en rire, en effet, avec ce même, par exemple, inspiré des Simpsons, à gauche, à la place de Homer, Ciotti qui annonce une alliance entre LR et le RN, et à sa droite, tous ses proches qui le regardent avec un œil torve. C'est l'humour internet, hein, Renaud, c'est pour ça.